et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission consacrée aux livres, des livres et des lires, émission hebdomadaire où aujourd'hui j'ai la chance d'être bien entourée. Christophe Laurent, par exemple, qui est hors du studio, mais qui est là. Il devrait arriver d'un moment à l'autre.
En tout cas, une fois qu'il était à l'heure.
Bernadette Spagnoli est bien là. Bonjour Bernadette.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle « Les signes de la 5e avenue ». Un livre de Mélanie Benjamin, nous en parlerons tout à l'heure.
Je me demande si ça n'est pas un livre que vous aviez proposé en livre commun,
oui,
et que nous avions comme ça délaissé,
écarté,
pas retenu. Bénédicte est avec nous, bonjour Bénédicte.
Bonjour Marie.
Bénédicte, vous allez nous parler d'un poème.
C'est une sorte, oui, de poème en prose, ou de la prose poétique au choix. Donc ça s'appelle « S'il ne restait qu'un chien » et l'auteur est Joseph Andras.
Et puis Christophe Laurent, voilà.
Bonjour.
Et là, bonjour Christophe.
Bonjour,
comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Auteur du blog The Killen.
Il a enfin trouvé le chemin du studio.
Vous allez nous parler de quoi, Christophe?
James Lee Burke.
Très bien, et ça s'appelle?
Ça s'appelle « La fête des fous ».
La fête des fous, roman noir. Bienvenue à toutes et à tous. Le livre commun cette semaine, c'est le principe de cette émission. Nous lisons tous le même livre et ensuite, chacun, sauf moi, présente un ouvrage. Ça agace beaucoup Bernadette. Alors, j'ai choisi cette semaine « Les vivants au prix des morts ». C'est le tout nouveau roman de René Frénis. C'est paru chez Gallimard. René Frénis est l'auteur d'une quinzaine de romans, imprégnés la plupart du temps de son expérience. Il a exercé divers métiers, comme celui d'infirmier psychiatrique. Il a longtemps animé des ateliers d'écriture à la prison des Baumettes. Il vit à Manosque. Et le dernier roman paru avant celui-ci était « Je me souviens de tous vos rêves ». Très très bon livre que j'ai lu ce week-end, voilà, pour tout vous dire. Les vivants au prix des morts.
Vous pourrez le commenter alors.
Oui, ah, je pourrais le présenter même. Et j'en avais lu un autre il y a très longtemps dont j'ai oublié le titre, qui était formidable, mais je vais voir avec Christophe Laurent s'il s'en souvient.
Bon, je vous le dis de suite, non.
Il y a des années de ça. Alors l'histoire, eh bien... C'est un journal intime qui est daté, où il nous raconte ses jours paisibles qu'il vit avec sa compagne qu'il adore, Isabelle. Il y a de très belles pages d'amour, mais aussi sa Provence qu'il décrit, et puis son travail d'écrivain, d'auteur. Donc on a l'impression au début que c'est un livre sur la garrigue. Notre ami Christophe nous parle de Jean Giono, d'ailleurs il le cite dans le bouquin, voilà, on pourrait penser à cela en effet. Et puis un jour, il reçoit le coup de fil d'un détenu qui avait assisté durant 3 ans à ses ateliers d'écriture et qui lui demande son aide puisqu'il vient de s'évader. Et on ne s'y attend pas, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu au début. On se dit, mais où veut-il
dans la garrigue.
Ouais, où veut-il en venir?
Complètement, ouais.
Et puis, voilà, arrive ce coup de fil qui va faire complètement basculer ce livre que personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je me tourne vers Bénédicte Giussi, qui elle...
Ah, je pensais que vous alliez d'abord commencer avec les gens qui l'avaient apprécié.
Qui, elle, ne l'a pas apprécié, donc c'est intéressant.
D'accord, donc vous avez dit oui, qu'on s'ennuie un petit peu au début. Oui, on s'ennuie un petit peu au début, on s'ennuie au milieu et on s'ennuie à la fin. Alors, vous l'avez très bien présenté. Hein, cet homme s'ennuie, est déçu par les hommes. Donc, il décide, hein, il le dit, de fréquenter les arbres. Et donc, il va consigner au jour le jour ses impressions. Il prend son joli petit cahier, son plus beau stylo. Et il nous raconte son bonheur parfait. Parce qu'il faut le dire, il est parfaitement heureux. Il vit avec la femme parfaite, hein, une sorte de croisement entre Rita Hayworth pour la sensualité, la Blanche-Neige pour ses qualités domestiques et je ne sais qui Maïté pour ses qualités culinaires. Donc, et il essaie de nous relater la joie justement de ses bonheurs simples, une promenade dans la
campagne. Elle a une autre qualité. Vous l'avez oublié.
Son sein gauche qui le réconforte, oui, j'en parlerai.
Non, elle parle peu.
Oui, elle parle peu, voilà, elle ne lui demande aucun...
Elle ne pose pas de questions.
Elle ne... Voilà.
C'est ça le bonheur. Mesdames, remettez-vous un petit peu en question, d'accord?
Alors, moi...
Eh oui, vous avez fait une découverte, c'est bien. Cette émission est utile.
Bernadette, je viens quand même de dire à Bénédicte.
Ça, c'est quand même pas une émission où le machisme le plus primaire peut s'exprimer.
Oh là là.
Je viens de dire à Bénédicte, elle a une autre qualité. Elle a quand même répondu son sein gauche qui le réconforte.
Ah non, parce que attendez, il nous fait quand même. Il nous dit.
Ça, il en parle souvent.
Il en parle souvent. C'est-à-dire que. Et je vais même citer le passage.
Il parle souvent des seins d'Isabelle, hein, René Frénis, dans ses livres.
Il nous donne un petit peu des conseils de vie. Et si tous les soirs, les hommes s'endormaient, c'est ce qu'il laisse entendre, aux quatre coins de la nuit, des gens se massacrent. Je me rendors la main pleine d'amour. Si tous les fous sanglants avaient dans leurs mains la souplesse merveilleuse d'un soin, d'un saint, point de suspension, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aurait moins de violence dans ce monde? Non, écoutez, moi, j'ai été totalement
hermétique.
Pour lui,
ça n'a pas marché, en tout cas.
Voilà, en plus, ça ne marche pas. Il n'y a pas de style. Il y a des poncifs qui sont enchaînés, comme ça, avec une facilité déconcertante. Oui, la prison, c'est pas bien. On ne naît pas monstrueux. D'accord, mais autre poncif, enfin, moi, je n'ai adhéré à rien, je n'ai cru à rien. L'histoire de ce détenu qui arrive ne m'a pas touché, ému un seul instant. On parle de Giono absolument pas, c'est plus une sorte de pastiche de René Char, pauvre René Char. La poésie, oui, c'est entre Roque Voisine et Francis Cabrel, ça aussi j'ai noté. Oubliez les démons qui rôdent autour de moi pour dessiner à l'encre bleue la lumière des saisons qui nous restent à vivre.
Attention, Francis Cabrel, attention.
Ne me dis pas que c'est un poète.
Non mais Francis Cabrel écrit très bien, arrêtons.
Non, c'est pas vrai.
Si on est là pour casser Francis Cabrel...
rien ne va plus.
Non, rien ne va plus.
Alors... Donc voilà, moi honnêtement, je trouve que c'est plein de bons sentiments. Ça m'a profondément
et
ennuyé.
Et alors là, je me dis une chose, Bénédicte.
Parce qu'attendez, même le fait d'associer, je finis, d'associer comme ça, la nature, l'évocation de la nature à la sensualité. Alors c'est quelque chose d'éculé, mais c'est pas un problème, puisqu'on écrit toujours plus ou moins sur la même chose. Mais à un moment donné, il faut renouveler les images, les métaphores, etc. Et pour écrire sur la simplicité, et vouloir le faire simplement, il faut énormément de talents, qu'apparemment, que pour moi, René Frégny n'a pas.
Vous oubliez une chose,
oui.
C'est que dans cette écriture, selon moi,
oui.
À aucun moment c'est fabriqué. À aucun moment on essaye de faire du beau. À aucun moment on essaye de copier qui que ce soit. Et je trouve ça vachement triste. Non mais c'est vrai qu'à aucun moment...
Que je sois insensible.
Ouais. Vous soyez insensible à ça.
Assis à côté de la beauté.
Non, parce que c'est très vrai. C'est sans prétention.
C'est candide.
Et enfin, moi, je l'ai ressenti ainsi.
Non, mais je vous dis, moi, la simplicité.
Il m'aurait agacé si ça avait été fabriqué, si ça avait été voilà.
Ah non, c'est tellement
c'est
peu fabriqué qu'il y a des répétitions. Là, c'est le roi du je ne sais quoi. Oui, ben on voit bien que vous ne savez pas comment le dire. Moi, c'est ce qui m'ennuie. J'aurais aimé. Moi, j'attends qu'il y ait un style, qu'il y ait une ambition, que ce soit un petit peu plus exigeant.
Mais vous trouvez pas que ce Kader, qui est donc la personne qui intervient, qui lui passe un coup de fil, qui fait basculer le livre, est très juste, que le personnage est très juste. Vous trouvez pas que sa description de Marseille, des prisons, est très juste? C'est même fou de pas le voir dans la mesure où ce type il a passé
moi,
des années.
Je trouve que c'est
une
très,
description
c'est
de prison
très attendue. C'est-à-dire il y a pas de surprise. Bien sûr qu'en prison, il se passe de vilaines choses.
Je trouve cette prison destructrice.
Ouais.
Moi, ce qui me, si je,
je vous en prie.
Donc moi, c'est vrai qu'au début, je me suis un peu ennuyée. Et puis après, j'ai voulu savoir pourquoi ce type était autant fasciné et sous l'emprise de Kader. Et je suis allée jusqu'au bout.
Oui, pourquoi ce mec, cet écrivain qui est si heureux, suit ce bonhomme?
Donc maintenant, Marie, vous m'avez fait perdre le fil de ma pensée.
Vous ne comprenez pas comment il avait pu suivre Kader.
Pourquoi il l'a suivi?
Pourquoi cet homme si heureux, si amoureux, est fasciné? Et je me suis un peu renseignée sur René Frégny, que je connaissais peu. Hein. Mais effectivement, dans la vie, je pense qu'il a une certaine fascination pour le milieu des truands, puisque j'ai lu qu'au début des années 2000, il s'est associé avec un parrain des Alpes d'Haute-Provence dans un restaurant, ce qui lui a valu quelques ennuis, même s'il a bénéficié d'un non-lieu après. Voilà, donc j'ai voulu savoir pourquoi cette fascination, mais j'ai pas trouvé la réponse, si ce n'est qu'il est devenu un fugitif lui aussi.
Je sais pas si
donc
on peut parler de fascination. Non, c'est facile de parler de fascination. C'est peut-être un intérêt. Il a travaillé en prison. Il a travaillé en hôpital psychiatrique. Il a été en prison très jeune parce qu'il a été déserteur. Donc, il a connu ça, le fait d'être enfermé. Ce que moi, je n'ai pas connu, par exemple. Je n'ai pas travaillé en prison. Donc, on parle pas de fascination. On parle d'intérêt. Pourquoi la pauvreté? Pourquoi la misère? Alors, c'est peut-être dépensif pour vous. Pour moi, ça, non, je trouve pas, peut conduire à l'irréparable et à la violence. Alors que voilà,
non, on a, me dérange, on a tous la façon une...
Non, mais enfin, c'est lui après qui plonge. C'est lui qui plonge, mais puisqu'il c'est est une... complice d'un assassinat.
Mais c'est une fiction, et c'est ça l'intérêt du livre pour moi. C'est que cet écrivain, on s'attend pas du tout à ce qu'il plonge. Il nous parle de sa garrigue et de sa femme, de la sensualité de sa femme, et d'un coup tout bascule. Pourquoi ? Parce qu'il a tout donné à ces gars en prison. Et ça, je pense que c'est sincère pour avoir vu des interviews et lu des interviews. C'est un garçon qui a consacré sa vie à ça. Et pas par fascination, me semble-t-il. Mais bon, voilà. Parce qu'il a peut-être connu.
Par générosité.
Il a
alors.
Peut-être connu en prison, ce monsieur. Avec non, qui il s'est associé.
Moi, je comprends pas trop. Je trouve que c'est un livre très, très sain. Très simple aussi. René Frény, il y a beaucoup de délicatesse dans ce qu'il fait. Il en fait pas des tonnes, moi, je trouve, justement, sur la prison. Il en parle, mais. Il n'essaye pas de tirer de larmes, je crois. Il essaye justement, parce que c'est quand même quelqu'un qui a 70 balais, je crois, quelque chose comme ça. Donc il essaye encore d'en parler. Ouais, c'est pas nouveau, mais il en parle avec son expérience, il en parle avec une certaine bienveillance. Après, je pense que le personnage de Kader, c'est un petit peu un personnage en miroir pour lui, parce que voilà, il a pas été toujours un type très 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 droit. Il a eu
son quelques... double maléfique, vous dites non, dans votre chronique. Maléfique.
Oui, voilà, mais il a effectivement peut-être, il y a peut-être une sorte de reconnaissance sur ce qu'il aurait pu devenir s'il avait pas fait les bons choix, s'il avait pas rencontré justement en prison quelqu'un qu'il avait initié au livre. Moi, je trouve que les évocations de la nature, elles sont...
Pardon, je vous interromps, ça c'est une histoire vraie, hein, l'histoire de l'aumônier.
Oui, il a raconté.
Oui,
il a raconté.
Lui a apporté des livres, voilà. Parce que donc, il est en échec scolaire.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté fiction et le côté journal.
Non, mais peut-être pas les auditeurs.
Le côté journal et le côté fiction. Il mêle un petit peu les deux, je trouve que ça fait quelque chose d'original. Je suis désolé, moi j'ai rarement vu quelqu'un qui introduit des éléments de fiction aussi importants dans un témoignage personnel, parce qu'il parle de lui, hein. Il parle de lui dès la première page, c'est René Frény, c'est pas un narrateur X ou Y, c'est lui. Et on peut penser que le Kader en question, ça ne lui est pas arrivé. Donc, c'est pas non plus l'invention de la bombe atomique, mais c'est quand même assez original ce thème-là. Je trouve qu'il se pose aussi pas mal de bonnes questions. Je trouve qu'il y a sur l'écriture, il y a des questions sur l'écriture, il y a des questions donc évidemment sur la violence, sur l'origine de la violence. C'est pas une thèse, c'est pas le monde diplomatique, c'est vrai. C'est peut-être un peu trop candide, un peu trop nunuche entre guillemets. Mais moi, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant.
Moi, je trouve que c'est plein de bons sentiments. C'est un peu manichéen.
Manichéen, non, justement, c'est pas manichéen parce que lui, il est écrivain, il a une femme superbe, il est peinard et il va aider à buter un type. C'est pas manichéen ça. Ça ne peut pas dire que c'est manichéen. Oui, je veux dire, il se moule.
Dans ce qu'il dit des prisons, les prisons qui ne font que...
En même temps, quand vous dites qu'en France, les prisons ne sont pas d'espace 5 étoiles, vous ne prenez pas trop de risques.
Et même si ce n'est pas un roman noir...
Il
n'y
a pas qu'en France
que
les prisons, ce n'est pas fait pour être des hôtels 5 étoiles. Non, je suis désolé.
D'accord, mais il le dit. Il le dit. Alors, si vous me trouvez un autre écrivain qui le dit aussi bien que lui, d'accord. Voilà.
Et puis, je trouve que même dans le déroulement de son histoire, rien n'est téléphoné. Honnêtement, même s'il ne veut pas créer un suspense, mais rien n'est téléphoné dans l'histoire de ce Kader et des scènes qui arrivent par la suite.
Après, moi, je mets un petit peu des guillemets. Par exemple, l'histoire avec le fils de Kader, ça m'a un peu... Je me suis dit,
voilà. Fils, même la mallette de bijoux...
Non, mais après, je pensais que vous aviez un peu aimé, vous. D'un coup, vous n'avez plus aimé, là.
Ça tourne au roman noir.
Bénédicte vous a convaincu, vous, Bernadette.
Non, elle est toujours restée mitigée.
Non, elle était mitigée pour le début. Là, d'un coup, elle est mitigée pour tout.
Moi, je trouve que c'est facile, voilà.
Bon, en tout cas, il donnera un atelier d'écriture. Il sera là, au mois de juillet, à la médiathèque, à l'invitation de la médiathèque de Folie, Castanich à Marémont, petit Françoise Ducré. Et voilà, vous pourrez comme ça lui poser des questions, puisque vous n'avez pas aimé, ça sera peut-être l'occasion, ou pas du tout. Mais moi, je suis ravie qu'il vienne en Corse.
Et, oui, c'est intéressant, ça.
Ouais, j'aimerais bien le rencontrer, parce que j'ai beaucoup aimé son livre précédent, et un autre livre dont je vais vous retrouver le titre. On m'empêche de dormir ou quelque chose comme ça qui avait remporté pas mal de succès. C'est publié chez Gallimard, ça s'appelle Les Vivants au prix des morts. René Frény, personne n'a sélectionné un extrait.
Moi j'ai prêté mon livre à Bénédicte.
Moi c'était donc pour me moquer, alors vous n'avez pas aimé. Mais moi voilà, le type d'extrait, alors je vais pas lire parce que vous allez dire que j'emploie mon petit ton méprisant.
Mais non, allez-y.
Alors, Isabelle est partie, Isabelle est partie à l'école avec de la farine, des œufs, du lait, du beurre et des pommes. Elle va préparer un gâteau avec ses 28 enfants de 4 ans. Elle fait les premiers gestes et maladroitement, les enfants se mettent au travail. Voilà ce que devraient faire plus souvent nos hommes politiques, des gâteaux aux pommes avec des enfants de 4 ans. Les mains dans la farine, ils en seraient plus humains, plus modestes. Ils oublieraient un instant de détruire tous ceux qui les entourent et menacent leur carrière. Ils assassineraient père et mère, tentant sans limite leur besoin frénétique d'être aimés, admirés, applaudis. Isabelle est au milieu de 28 enfants. Elle ne demande rien. Tous l'adorent parce qu'elle prépare avec eux un gâteau aux pommes. Elle le leur fait goûter en souriant et s'en va le soir marcher dans les collines. Elle est avec les arbres et les oiseaux comme avec les enfants. Rien n'est plus simple que l'amour. Il faut faire en souriant quelques gestes simples. Les grimaces ne créent que des grimaces d'amour. Les hommes politiques confondent les mots succès, gloire avec le mot amour. Ils vivent dans un monde de grimaces. Les hommes et les femmes de pouvoir construisent leur image, leur célébrité. Obsessionnellement, Isabelle construit des femmes et des hommes avec douceur, modestie, dans une odeur de pommes et de caramel. Les enfants donnent tant de choses à Isabelle que chaque jour, elle en est un peu plus jolie. Moi, je suis hermétique à cela, à cette simplicité, au fait que si on faisait plus de gâteaux aux pommes, il y aurait moins de violence dans ce monde. Voilà. Je ne me regarde pas méchamment comme
ça. Je ne vous regarde pas du tout méchamment, mais c'est juste une déclaration d'amour. Hein. Ce n'est pas une volonté de vouloir changer le monde, c'est une déclaration d'amour.
Ah oui, non,
d'amour
c'est complètement magnifique. Pour moi, on était dans une espèce de conte, hein, tellement tout était parfait et sublime. Hein.
Donc, ça arrive chez certaines personnes. Hein.
Ça existe, hein.
Il y a des gens qui font des gâteaux, il y a des gens qui prennent le petit déjeuner chez eux, le café, tranquille, en couple.
Mais qui kiffent en faisant des madeleines pour leurs enfants.
Exactement.
Et qui règlent le conflit israélo-palestinien.
Non, c'est pas du tout
non,
ce qu'il
y a. Non, c'est pas vrai.
Je caricature.
Là, vous êtes malhonnête. Parce que jamais il se permet de parler ni de politique internationale, ni pas du tout.
Enfin, le côté social. Le côté social de la violence, c'est pas nouveau non plus.
Après, il y a autre chose. Bon, peut-être que je manque d'objectivité. C'est tout à fait possible, parce que c'est une région que j'adore.
J'adore aussi.
Et je trouve qu'il en parle divinement bien. J'ai fait mes études là-bas et j'ai connu beaucoup, beaucoup de petites frappes et de petits... Voilà. Et je reconnais mais tellement bien. Pour moi, c'est tellement juste. Voilà.
Non, mais c'est pas non plus un essai sur le déterminisme social.
Pas du tout.
Évidemment,
vrai.
Quand vous naissez dans une famille de 11 et qu'il n'y a que le père qui travaille, forcément, les enfants risquent d'avoir des problèmes. Ce sont des statistiques, c'est tout. René Frény reprend ça pour Kader. Bon, d'accord, c'est pas génial, mais ça existe encore aujourd'hui.
Et moi, je vous le dis toujours, la seule chose qui m'importe, c'est finalement la forme et pas le fond.
Mais quand on est dans une famille de 11 et qu'il y a le père qui travaille, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des familles de 11 où personne ne travaille et des enfants qui n'ont rien vu. Mais il y a aussi une éducation à la base.
Oui,
quand on a un père qui travaille.
Mais là, c'est un autre sujet. Ça, c'est pas la qualité du livre.
Si les choses sont si simples, si quand on est dans une famille de 11 avec un père qui travaille, on tombe dans la délinquance la plus horrible parce qu'il est quand même sanguinaire, le Kader.
Mais il dit pas que c'est l'unique explication. C'est lorsqu'il décrit le personnage.
Non, moi, là, je suis pas...
Il parle de cette famille de 11, mais c'est tout.
Hein, coupé en deux comme pas... ça, non.
C'est pas coupé en deux, Bernadette, mais les statistiques sont là. Enfin, c'est...
Bon, ben, on n'est pas d'accord. Allez, tant mieux. Les vivants au prix des morts, vous ferez votre propre opinion. C'est signé René Frény et c'est publié chez Gallimard. On vous parle d'autres livres dans un instant.
Il n'y a pas que les bouquins.
Je reste quelques heures à regarder dehors. Regardez. La pluie tombée sur mes peurs et tombée sur mon corps. Je suis resté autour de mon nid, chasser mes démons. Remonter sur le fil, ouais, seul avec mon bâton. J'ai laissé ma dérive guider quelques instants. J'ai regardé les deux rives, j'ai regardé devant. Les pieds dans le sable, faire le tour de mon île. Et même si c'est instable, je suis bien sur le fil. Je sens entre mes doigts. Ce couloir immense qui mène à mon chemin. Au loin derrière la ville, là devant l'horizon. Remonte sur mon fil, enfant, seul avec mon bâton. Je suis resté tout là.
entre mes doigts. Je suis à l'équilibre.
Beni da festidia santé ramuinayachu. Sabadu e domenica baspettem un anta uvitu bortu a parte da de giore. Pes parte con voi stu momento di bradellanza. Pescador in festa? Querci FM.
Santa Lucia di Talla. 100.1.
C'est vrai qu'il y a prison que de riches.
Alors, oui, vous êtes à l'antenne, Bernadette. Voilà, quand ça s'allume en rouge, c'est que vous êtes à l'antenne. On continue à converser autour de ce livre de René Frény.
C'est et... un livre comme ça qui coupe en deux.
Ça coupe en deux. Oui, oui.
Ça clash.
On est deux à avoir aimé. Et Bénédicte et Bernadette ne vous le conseilleront pas. Donc, on passe à autre chose.
Mais si, on peut le conseiller, comme ça les gens.
Voilà, on s'en sort plus. Alors. Donc, Bernadette vous
les
le conseille.
Les gens ont une idée.
Voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de bouquins, donc vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire une idée si ça ne vous plaît pas. Il y a un livre qu'on voulait présenter en livre commun, parce que vous êtes littéralement tombé sous le charme de ce livre. Malheureusement...
On n'en avait pas suffisamment, enfin, on avait pas suffisamment d'exemplaires. Alors, c'est donc « S'il ne restait qu'un chien » de Joseph Andras. C'est vraisemblablement donc un pseudonyme d'un jeune auteur de 33 ans qui a obtenu l'an dernier le prix Goncourt du premier roman pour un récit qui s'appelait « De nos frères blessés », qui est un roman sur la guerre d'Algérie que je n'ai pas lu mais que j'ai commandé. Mais il a refusé ce prix. Et il a fait une longue lettre expliquant pourquoi il l'avait refusé, en disant qu'il n'y avait aucune arrogance dans cette démarche. Mais que lui, il voulait s'en tenir aux mots et qu'il ne comprenait pas la notion de compétition en littérature. Donc la quatrième de couverture explique que c'est le port du Havre qui prend la parole pour évoquer 500 ans de son histoire. Alors j'avoue que c'est pas le thème le plus palpitant que je connaisse. Et là... Alors à l'inverse, je veux pas être insistante, mais à l'inverse du roman de René Frény, j'ai lu presque distraitement, je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire les premières lignes, et là, pour le coup, j'ai littéralement été happée par ce récit. J'ai été attentive au moindre mot de ce port, donc qui va comme ça vous raconter son histoire. Alors évidemment, à travers l'évocation des grands événements historiques et sociaux de cette époque, à travers également, et d'ailleurs dans les événements racontés, je trouve que le passage sur l'esclavage est absolument admirable. C'est-à-dire qu'en quelques lignes, tout est dit. L'horreur, la folie des hommes, leur voracité, leur sadisme, mais aussi toute la vacuité du monde. Alors, il évoque aussi des personnages célèbres. Alors, il y en a même que je n'ai pas su identifier, parce que parfois, il passe par des périphrases, et je ne savais pas qui étaient ces personnages. Bon, je ne suis pas très bonne en histoire. Et aussi, évidemment, toute la foule des anonymes qui ont fait l'histoire de ce port. Les matelots, les ouvriers, les dockers, les putains, mais aussi les amoureux, les idéalistes. Et parce que ce sont eux véritablement qui, d'une certaine façon, font l'histoire de ce port. Et tout ça, donc, c'est dans une sorte de long poème en prose. La langue est absolument incroyable.
C'est pas une collection particulière chez Actes Sud ? Parce que je vois qu'il y a un CD aussi.
Alors, je ne sais pas. Voilà. Ouais,
c'est assez joli, d'ailleurs.
C'est très joli. Hein, ouais. La couverture est superbe. Donc, voilà, c'est une langue, comment dire, à la fois chaotique, si vous voulez, et fluide, mais qui épouse, justement, le mouvement de cette humanité, de ces hommes qui s'agitent perpétuellement, qui n'avancent, si on peut parler d'avancer, finalement, que dans la violence et le fracas. Alors, quand vous lisez, il y a de nombreux échos. On pense à Baudelaire, parce que ici, Joseph Andras, moi, je trouve, se fait à la fois le peintre du contingent, du fugitif et du transitoire, hein, comme disait Baudelaire, et en même temps, il peint l'immuable et l'éternel. Voilà, il y a du Céline, parce que c'est quelque chose de très organique, hein, et puis aussi dans l'évocation de toutes les faiblesses, de toutes les lâchetés, comme ça, humaines. Il y a un peu Rimbaud, parce qu'il y a du bateau ivre, mais en même temps, c'est une langue très singulière qui ne ressemble à rien d'autre.
À aucune autre.
Voilà, c'est vraiment un texte, si vous voulez.
Parfois, carrément, il n'y a plus de ponctuation.
Non, c'est du vers libre, hein. Ouais.
D'accord.
C'est
et puis après, quelque la ponctuation chose. Revient.
Oui. C'est alors parfois c'est vous qui insufflez justement le rythme au texte. C'est quelque chose de très très sonore, mais c'est vraiment ce genre de poème qui vous donne à la fois à voir, à entendre, à sentir. Et il y a une fin qui est absolument somptueuse, qui vous invite au silence d'une certaine façon, qui donne aussi tout son sens au titre. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est toujours difficile d'en parler parce que vous avez l'impression que vous ne rendez pas hommage,
grâce, oui,
voilà,
tellement c'est beau.
Tellement c'est beau. Alors c'est vrai que le livre est accompagné d'un CD parce qu'il y a un slammer qui dit le texte. Alors la voix de ce slammer qui s'appelle, j'ai oublié le nom.
Alors je le connaissais pas du tout, il s'appelle Dedekabal.
Alors moi je connais absolument pas, bon il a une voix d'outre-tombe.
Et musique trio, schizo et phonie.
Voilà, bon après moi en revanche, j'avoue que je suis complètement hermétique au slam et j'ai pas pu écouter le CD. Hein.
D'accord.
Moi j'aime pas trop finalement qu'on me fasse la lecture.
C'est d'une traite en fait, voilà. C'est tout le texte,
tout le texte qui... Alors c'est vrai que comme c'est un texte très sonore, on se dit c'est dommage, il doit d'abord être entendu même avant d'être lu, mais là... Pour le coup, moi, le CD n'a rien apporté à la beauté du texte.
Oui, mais c'est une bonne idée parce que
l'idée
même
est
si
excellente.
Vous, voilà, ça
oui,
vous
non,
a
moi,
pas...
c'est, moi, c'est vraiment là pour le coup très personnel et moi, je conseille et d'écouter
parce que
le
la poésie,
CD.
La poésie, c'est bien l'oral. Après, on peut faire autre chose, c'est lire à haute voix. Hein.
Oui, mais c'est ce qu'il faudrait faire avec ce texte parce que le rythme est absolument incroyable. Les sonorités, quand je vous disais que c'était un poème très sonore, parfois j'avais l'impression d'être sur ce port et d'entendre les dockers qui déchargent, etc. Les gens qui crient. Ah non, c'est quelque chose de très fort. Très puissant.
Parce qu'on va pas le trouver, il faut le commander.
Faudra le commander.
Ça fait très très envie, la façon dont vous en parlez, et l'objet.
Bon, tant mieux, voilà.
Et puis, j'ai lu la première page.
Et voilà, là pour l'expérience, comme on fait souvent des premières lignes, c'est magnifique.
Ça fonctionne. Bon, c'est hyper dur à lire. Hein.
C'est très dur. Comme vous
y connaissez.
Piètre lectrice, vous voulez que j'essaie?
Mais je veux bien, oui. Mais oui, parce que parfois, il n'y a pas de ponctuation.
Moi, en plus, je lis vite. Je ne sais plus mon âge, je compte sur mes doigts, mais ceux-ci se perdent dans le temps. Mes doigts de pierre et de bois, qui ne savent plus les chiffres, tant il y en eut à me passer dessus. Des chiffres sonnants, trébuchants, des chiffres que vous diriez fous, mais sitôt je vous arrête, tant je sais, oui je sais, à quel point ils furent pensés, au fond de froid cerveau. Le calcul des humains les préserve de la folie. Le nombre a ses lucidités qui me restent inconnues. Des chiffres partout, sous la couenne, le corps, en dessous les os, sur la terre que j'ai tant avalée, et les ondes qui sont à ma vie, ce qu'est l'air à leurs poumons. Je ne sais plus mon âge, mais me souviens des siècles qui m'ont fait.
C'est
quand même pas mal.
C'est pas mal du tout. Non, moi, j'ai très très envie de le lire. Et puis bon,
voilà, j'adore le déchirer.
C'est-à-dire qu'elle a tellement été passionnée par sa lecture qu'elle a déchiré le bouquin en deux.
Une violence,
voilà, cette fille.
Passionnée.
Ça s'appelle donc. Pardon.
S'il ne restait qu'un chien.
C'est
un beau titre en plus.
C'est publié chez Actes Sud, Joseph Andras. Et Dedekabal, ça, c'est le slammer, ouais. Puisque le disque est avec et on ne peut pas vendre l'un
allez,
et l'autre.
Allez, écoutez cette voix qui est incroyable. Hein.
Bon. Et puis évidemment, on peut peut-être renvoyer les auditeurs au reste de l'œuvre de Joseph Andras.
Moi, j'ai commandé son premier roman.
Voilà, puisque c'est un roman et ce poème
ouais,
en prose pour l'instant. Joseph Andras.
C'est un auteur très mystérieux, hein. Il ne veut pas de photos, il n'y en a qu'une photo de lui, même pendant un temps on pensait que c'était un autre écrivain qui avait pris un pseudo un peu à la Gary, voilà, c'est assez mystérieux. Bon, apparemment il existe bel et bien.
Quel âge a-t-il? On ne sait pas.
33 ans,
oh ouais,
officiellement, voilà.
Allez savoir. Merci beaucoup Bénédicte.
Je vous en prie Marie.
Granada que danza enrentada en tardes de toro. Mujer que conservo en el lujo de los ojos moros. De sueño de verde gitana cubierta de flores. Y
c'est sur RCFM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Allez Bernadette, ce livre que nous avons écarté, disons-le.
Oui, ah, moi je ne l'ai pas entendu.
Je l'avais proposé. Écarté.
Non mais c'est pas vrai. Si vous ne voyez pas que... Non mais elle ne nous a jamais parlé de ce livre ou alors dans sa tête.
Elle me fait passer pour une...
une dingo. Gueule.
Bon alors, moi je vais vous présenter...
En plus je suis sûre que c'est bien.
Les signes de la 5e avenue de Mélanie Benjamin. Qui est la fille de Norman Mailer.
C'est marrant parce que dans votre voix, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que vous m'en avez déjà parlé.
Donc en fait, les signes de la 5e avenue, c'est l'histoire d'une amitié amoureuse entre Truman Capote et Babe Paley, qui était l'épouse de William Paley, le fondateur de CBS. Donc Truman Capote, qui fréquente un petit peu le Gotha new-yorkais, et puis toutes ces femmes, en fait, il ne fréquente quasiment que les femmes, dont le seul statut social est d'être des épouses d'eux. Et évidemment, il se nourrit de tout ce qu'il entend, de tout ce qu'il voit, jusqu'au jour où il va trahir toutes ses amies... En publiant des choses...
Et tout balancer.
Voilà, en publiant des secrets. Donc, on redécouvre un Truman Capote cynique, pas très gentil. Et on redécouvre aussi l'histoire de sang-froid, puisqu'il a travaillé sur ce fait divers pendant 5 ans, avant de publier le livre qui a été un énorme succès.
1966.
Voilà.
Oui.
Donc c'est à partir de là qu'il va basculer dans la mégalomanie, il va organiser une fête, il va inviter plus de 500 personnes. Donc à partir de là, tout va basculer, il va boire de plus en plus, il va prendre de plus en plus de cocaïne. Et voilà, ça va être la fin non seulement d'une amitié, mais la fin de l'écrivain aussi.
Et tout est raconté
Tout est raconté sur quelques centaines de pages. Donc 423 pages précisément. Et moi, ça m'a donné très envie de relire Truman Capote. Donc, j'ai commencé avec la traversée de l'été, puisque jusque-là, je n'avais lu que de 200 froids, évidemment, et petit déjeuner chez Tiffany.
L'intérêt de ce livre, parce qu'on sait bien que la vie de Truman Capote est tellement sulfureuse que c'est intéressant par définition, mais c'est qu'on voit aussi...
C'est le rêve américain dans les années 50-60, et puis petit à petit, cette Amérique qui change avec la guerre du Vietnam...
Et puis toute cette société new-yorkaise...
La lutte contre la ségrégation, le féminisme, donc... Une Amérique qui est en train de changer, où le rêve américain n'est plus aussi beau qu'il n'était.
Vous avez sélectionné un extrait ?
Oui, j'ai sélectionné deux petits extraits, mais sur les personnages principaux. Donc Truman Capote, qui est un enfant qui a été maltraité, abandonné par sa mère et qui ne s'en est jamais remis. Donc un petit extrait sur lui-même. Donc même quand il était le centre de l'attention... Debout, devant un pupitre, au cours d'une lecture, ou lorsqu'il découpait un gâteau dont le glaçage représentait la couverture de son livre, c'était des moments qui ne lui appartenaient pas complètement. Il se passait toujours des tas d'autres choses en même temps. Deux têtes penchées l'une vers l'autre pour une conversation dans un coin reculé, un sourire complice entre deux amants, un éclat de rire déclenché par une blague qu'il n'avait pas entendue, des gens qui s'échangent leur numéro de téléphone mais pas le sien, une phrase dite à voix basse, « Je vais commander un taxi pour tout le monde » et soudain, un groupe de quatre personnes se volatilise en agitant rapidement les mains dans sa direction, soufflant vers lui des baisers qui, dans le sillage de leur parfum, n'atteignaient jamais sa joue. L'abandonnant, on l'abandonnait toujours.
Ah ouais, ben oui. Terrible, parce que je suis en train de lire sa biographie là, en même temps résumée. Petite enfance... Oui. Sympathique quand même.
Assez sombre.
Ouais. Assez sombre. Donc le premier bouquin, c'est La Traversée d'été, son tout premier roman.
Non.
Ah bon ? Je croyais, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux.
Ah peut-être.
Ouais. Tout premier roman, comme c'est celui auquel vous allez vous attaquer.
J'ai sélectionné un deuxième extrait sur Babe Pellet. Parfaite. Babe se devait d'être parfaite sans aucun défaut. Elle était née pour devenir la femme d'un homme riche, être décorative, être un atout pour Bill. Elle ne se souvenait pas de s'être jamais autorisée à aspirer à autre chose. Quand elle était toute petite, Betsey et Minnie 9 ans de plus et Betsey 7, lui avaient permis de jouer le rôle de la fleuriste dans la pièce qui mettait en scène leur mariage. Ce fut le seul semblant de pièce de théâtre qu'approuva sa mère. Maintenant, laissez Babe attraper le bouquet, avait ordonné Gogs à ses deux sœurs. Babe doit attraper le bouquet, ainsi elle sera la prochaine à se marier.
Donc, la vie de Truman Capote, ça s'appelle ?
Les signes de la 5e avenue, chez Albin Michel.
Et c'est signé ?
Mélanie Benjamin.
Merci beaucoup Bernadette. Et du coup, on va se mettre à lire.
Et on regrette tous de ne pas l'avoir choisi en livre commun.
Oui, pardon Bernadette. Moi, je ne regrette pas parce qu'il fait au moins 400 pages. Et je préfère lire Truman Capote. Voilà, c'est dit.
Seconds from my heart. The door, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips, only when it's over, the silence hits so hard, cause it was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on, someone but the love's gone, carrying the load with wings that feel like stone, knowing.
it was almost long.
When I try all over again. It was almost love. It was almost love.
11h47 minutes sur RCFM, suite et fin de Délivre et Délire, avec Christophe Laurent qui nous parle d'un roman noir, me semble-t-il.
Oui, mais d'abord.
Mais avant ça.
Oui, je voulais faire. Je peux faire une parenthèse.
Sur René Frény ou pas?
Non, pas du tout. Ouais, voilà, non.
Non, parce que moi j'aimerais bien qu'on défende encore René Frény.
Hier, je regardais le palmarès du Festival de Cannes, ouais. Et donc. Prix du scénario You Were Never Really Here.
Oui.
Et prix de l'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix pour, le même, yes. Pour ce même film. Et c'est tiré.
Il dit Joaquin ?
Oui.
Ah, d'accord.
J'ai entendu dire Joaquin, moi. Non, mais peut-être parce que c'était Pedro Almodovar. Ouais,
Joaquin Phoenix.
Enfin, toujours est-il que c'était pour un roman qui est paru il y a quelques années. Je crois qu'on on l'avait présenté, c'est Jonathan Ames. Vous en souvenez, Bénédicte, ou pas ?
Oui.
Alcoolique. Vous savez, d'alcoolique.
Mais très bien.
Donc voilà, c'est lui qui avait écrit ce roman, qui est paru il y a 4 ou 5 ans, et qui a été récompensé hier à Cannes. Voilà, je voulais faire un
sentier.
C'est
bien sûr. Regardez là. Mais oui, mais
voilà,
vous
c'est
voyez.
Pour dire qu'on n'est pas que de la daube.
Mais oui, non, on n'est pas que du René Frény, non, je plaisante.
Allez, on va tirer des trucs maintenant dans l'émission, voilà. Vous allez voir.
Des objets.
Donc voilà, c'est une petite parenthèse.
C'est
une petite parenthèse.
C'est trop là, c'est bien.
Et c'est un excellent livre qui n'est pas très très long. Et qui est d'une puissance incroyable. C'est un éditeur en plus dont on parle très peu, Joël Losfeld. Donc voilà, précipitez-vous.
Et c'est souvent, voilà, c'est une belle maison d'édition. Hein,
oui, ça, il travaille très très bien. Il publie peu, mais c'est.
Ouais, de qualité. Ouais.
Voilà, on ne se trompe pas. Donc oui, je voulais parler de James Lee Burke. C'est pas la première fois que j'en parle, non, dans l'émission, ça va un peu vous gonfler à la fin.
Pas du tout.
Non,
moi je
suis
contente. Non, mais parce qu'on suit un auteur, c'est bien aussi.
Voilà. Donc,
je vous reparlerai de René Frény.
Donc aujourd'hui, James Lee Burke, honnêtement, c'est vrai qu'il a perdu un peu de sa verve. On peut regretter qu'il n'ait plus la pêche qu'il avait. Mais bon, maintenant, il a 80 balais. Il continue à écrire. Donc moi, ça me rassure de voir un monsieur de 80 ans qui continue de creuser, de fouiller ses personnages. Donc là, on n'est pas sur les histoires de Dave Robichaud. Dave Robichaud, c'est son enquêteur de Louisiane. Là, on est avec Huckberry Holland, et là, ça se passe au Texas, et ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Alors, on va peut-être lui reprocher que, justement, c'est un peu trop violent, ou un peu trop maléfique, mais il a toujours ce côté James Lee Burke un peu christique, c'est-à-dire que ses personnages sont toujours à la recherche de la rédemption, ça aussi, c'est pas super, super original. Mais voilà, comme le monsieur sait faire le métier, dans La Fête des Fous, il poursuit ce qu'il avait fait dans son précédent roman qui était sorti il y a 4 ou 5 ans, dans Dieu de la pluie, donc Huckberry Holland. Il est sur la frontière entre le Texas et le Mexique, donc grosse frontière pleine de trafic. Et là, il y a justement un ex-agent des services secrets qui travaille sur un prototype de drone qui a été kidnappé.
et on ne sait plus trop si ce sont les cartels ou si ce sont des milices parallèles qui veulent le vendre à Daesh. Enfin, il y a tout ça qui se mêle, c'est presque confus, mais non, en fait, il sait où il va, le monsieur, heureusement, hein, après avoir écrit une trentaine de romans, c'est quand même assez carré comme narration. Mais on se retrouve avec des scènes d'action qui sont assez jouissives. C'est du pur entertainment, comme on aime dire. Et derrière, il y a toujours le passé de James Heber qui arrive à nous reparler de la guerre de Corée, avec Robichaud, c'est la guerre du Vietnam, là c'est la guerre de Corée. Donc il y a tout un background qui est fascinant. Et bon, honnêtement, c'est pas le meilleur James Heber. On peut commencer par ce James Lee Burke, mais voilà, moi j'ai un immense respect pour cet auteur, donc je continuerai à le défendre malgré ce que certains en disent, qu'il écrit toujours le même livre ou qu'il n'est plus au sommet de sa forme. Moi j'ai une affection toute particulière pour ce vieux monsieur.
Un petit extrait ?
Oui, j'ai cherché un bon petit extrait. Le pilote de Jack et deux tueurs à gages, les cousins Eladio et Jaime, l'attendaient sur la piste près du bimoteur Beechcraft. Le pilote était à l'entière disposition de Jack, mais disponible 24 heures sur 24. Eladio et Jaime étaient prêts à toute activité susceptible de leur remplir les poches, de nuit comme de jour. S'il y avait des lignes qu'ils ne franchissaient pas, des actes qu'ils ne commettaient pas, jusqu'à un meurtre en voiture pour la famille à Michoacán lors de la fête d'anniversaire d'un gamin de 12 ans à Juarez, Jack l'ignorait. Leur plus grand problème résidait dans le déficit d'intelligence que cachait leur expression indolente. L'intérieur de la tête de Jaime ne pouvait se décrire que comme un nœud enchevêtré de cruauté lié à sa nature stupide et renfrognée. Eladio, le plus intelligent des deux, pensait que la transparence enfantine de sa duplicité et ses tentatives de manipulation étaient une preuve de sophistication. Au cours d'un rare moment de complicité avec les deux cousins, Jacques avait demandé à Eladio si sa mère avait été fécondée par une quille de bowling. Eladio avait répondu « Vous savez beaucoup de choses, Seigneur Jack, mais vous ne devez pas sous-estimer les gens simples. Nous respectons nos mères et les aimons profondément. Elles sont le centre de nos vies. »
Mais c'est un livre pour la fête des mères, ça.
Et en plus, James Lee Burke, il y a ça, il y a cette violence. Mais lui, quand il évoque les terres de Louisiane, par exemple,
c'est trop beau.
C'est une évocation de la nature.
Voilà, puis il a un amour de sa région, ouais. C'est attendrissant. Là, bon, c'est sur le Texas où il a vécu avec son père, qui était, je crois, il travaillait dans l'industrie du pétrole. Et il y a une différence entre quand il parle du Texas et quand il parle de la Louisiane. C'est pour lui, le Texas, ça semble vraiment le repère de tout le mal. Quoi. Le mal, c'est vraiment sa préoccupation principale. Hein. Et là, vraiment, il y a des personnages qui sont quasiment extraordinaires.
James Lee Burke, La Fête des Fous, c'est paru chez Rivage. Et merci de nous parler de cet auteur. Si on veut démarrer, si on n'a jamais rien lu de James Lee Burke, on ne va pas démarrer par La Fête des Fous ?
Non, on ne va pas démarrer par La Fête des Fous. Bon, il y a celui qu'on connaît qui a été adapté par Tavernier, c'est Dans la brume électrique.
Ouais.
Moi, celui que j'adore, c'est le premier, c'est La pluie de néon. Dans cette série avec Barry Holland, il y a Texas Forever qui parle de l'origine du Texas, des premières batailles pour le Texas.
Et là, ça, c'est pas mal.
Oui, et en plus, il a écrit il y a, je crois, une trentaine d'années, et là, il avait une patate dans le style. C'est vraiment un de ses meilleurs romans, Texas Forever.
Nous faisons un tour de table. Vous nous avez dit ce que vous conseillez, Christophe Laurent.
René Frény.
Non, et puis le René Frény, bien sûr.
James Heber.
Les
Jonathan Hems.
Au prix des morts.
On peut retrouver facilement.
Oui. Ouais, très intéressant. Bernadette, qu'est-ce que vous conseillez cette semaine ?
Les signes de la 5e avenue, Mélanie Benjamin, chez Albin Michel.
Et puis pourquoi pas se plonger dans
Truman Capote.
Dans Truman Capote.
Dans le premier roman, je le rappelle, et la traversée de l'été.
Bravo ! Fallait le dire.
Bénédicte, qu'est-ce que vous conseillez ?
Moi, je conseille S'il ne restait qu'un chien de Joseph Andras.
Et c'est tout, vous n'avez pas beaucoup lu, vous, hein, cette
J'ai lu comparé à nos copains. Ça faisait 40 pages. J'ai eu honte.
Alors, mais je suis en train de rechercher le René Frény, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, Les Vivants auprès des morts de René Frény, paru chez Gallimard. Également chez Gallimard, je vous conseille, je suis désolée, hein, Je me souviens de tous vos rêves. Et puis, voilà, allez-y.
Il y a de beaux titres, en revanche. Hein.
Ah ben ouais, c'est quand même un signe, voilà. Peut-être qu'on lui trouve, hein. C'est ça que vous voulez dire, méchante.
Non, je n'y pensais même pas.
Allez, évidemment, vous pouvez réécouter cette émission en podcast quand vous le désirez, et puis en nouvelle diffusion le mercredi soir. À la semaine prochaine pour des livres et des livres.